Bonjour, nous sommes le lundi 28 juin, il est 18h, vous écoutez Radio Campus Paris en FM ou sur le web et c'est l'heure de la relève.
La relève sur Radio Campus Paris.
Bonsoir, la relève, c'est comme toutes les semaines ou presque 15 minutes d'interview avec un jeune talent. Ce soir, on va parler encore d'élections présidentielles et de poésie. Mon invité est écrivain, évidemment. Bonjour Adrien Kent. Oula, bonjour Adrien Kent, j'ai oublié le L, vous êtes auteur de Paresse pour tous aux éditions Le Tripode. Bonsoir.
Oui, bonsoir. Je suis très content d'être un jeune talent. Je ne me voyais pas si jeune, mais du moment que vous dites que j'ai du talent, tout va bien.
Il n'y a pas d'âge pour le talent, de toute façon. Paresse pour tous est un roman qui raconte l'ascension d'Émilien Long, un chercheur prix Nobel d'économie qui milite pour la journée de travail de 3 heures. Pourquoi avez-vous choisi la forme romanesque plutôt que l'essai ?
Tout simplement parce que c'est deux choses très différentes d'écrire un essai et un roman. Et autant je me voyais bien écrire un roman en entier, autant je ne me voyais pas écrire un essai en entier sur la question de la réduction du temps de travail. J'avais peur de faire quelque chose d'un peu rébarbatif. Et la forme du roman permet de finalement faire passer toute une série d'idées sans plonger dans le côté un peu scolaire qu'il peut y avoir dans l'essai.
Mais vous n'avez pas peur du coup qu'on se dise « oui, c'est une belle histoire, mais ce n'est pas possible, c'est de la fiction » ?
On peut dire ça, mais enfin, en même temps, il y a beaucoup de fiction dans l'histoire des livres et des romans dont on se souvient encore. C'est-à-dire que je ne crois pas que la fiction soit un obstacle à la question de la croyance. Je pense que la fiction, elle permet aussi de développer un espace imaginaire dans lequel le lecteur peut se plonger et tout en se projetant lui-même de projeter, disons, sa vie réelle dans cet espace imaginaire et de confronter justement le réel et l'imaginaire, à mon sens, avec plus de possibilités que dans l'essai où on peut avoir le risque d'être un tout petit peu plus à distance, quoi.
Émilien explique très vite dans le roman que à ses proches qui comprennent pas forcément ce qu'il veut, que la paresse c'est pas la fainéantise. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs la différence entre les deux?
Oui, c'est-à-dire que le mot paresse a un double sens. La paresse telle qu'on peut l'imaginer comme un synonyme de la flemme, c'est en fait le fait d'avoir envie de rien faire du tout. La paresse pour tous, telle que Émilien Long va le dire, mais surtout le droit à la paresse, puisque le droit à la paresse, c'est un livre de Paul Lafargue qui date du 19e siècle et que remet au goût du jour donc le personnage Émilien Long en disant maintenant le droit à la paresse au 21e siècle. Le droit à la paresse, en fait, il s'oppose au droit au travail. C'est-à-dire que à partir donc de on va dire, pour le dire de façon schématique, à partir du 19e siècle, beaucoup d'économistes pensent qu'il faut donner accès au droit au travail, c'est-à-dire qu'il faut que tout le monde puisse travailler. Et Lafargue, le premier, a l'intuition de dire on va inverser les choses, on ne va pas réclamer le droit au travail, mais bien le droit à la paresse, c'est-à-dire le droit au non-travail, c'est-à-dire le droit au temps libre. Donc la paresse telle qu'elle est défendue de Lafargue jusqu'à Émilien Long, c'est la question du temps libre, c'est simplement prendre le temps pour soi, et ça s'oppose au travail qui est là vu dans une perspective tout à fait classique, hein, dans une grille de lecture marxienne, puisque puisque Lafargue est le gendre de Karl Marx et est très influencé par Karl Marx. Le travailleur en fait donne sa force de travail au capitaliste, c'est-à-dire au patron, à l'actionnaire, et en fait, qu'est-ce que réclame Lafargue, ce que réclame Émilien Long, c'est que le travailleur récupère en fait de son temps, qu'il arrête de donner tout son temps, puisque actuellement encore, c'est la grande majorité de la journée, elle est offerte par le travailleur à l'entreprise pour laquelle il travaille.
Je vais vous citer, vous écrivez « La paresse, c'est tout autre chose, c'est se construire sa propre vie, son propre rythme, son rapport au temps, ne plus le subir, c'est renoncer à l'individualisme, à l'égoïsme, à la destruction méthodique de notre planète, c'est ouvrir un espace, des espaces, c'est se poser, et même se poser à nouveau chaque jour la question de ce qu'on est, de ce qu'on veut faire, de ce qu'on doit faire. » C'est bien résumé.
Bien résumé, mais là encore, c'est Émilien Long et pas moi qui le dis. C'est une partie de l'essai d'Émilien Long. C'est quand justement il essaye d'expliquer, je crois que c'est l'introduction de son livre, justement, de son essai qu'il écrit, il essaye d'expliquer justement à ses lecteurs la différence entre la paresse et la flemme. Et en effet, comme vous l'avez dit, il raconte, c'est à ses enfants, parce qu'il a deux enfants qui ont une dizaine d'années et qui lui demandent mais papa, mais nous, on aimerait bien être flemmard. Tu nous dis qu'il ne faut pas être flemmard, mais tu dis que la paresse est bien. Donc c'est vrai que c'est très important. Oui. De bien expliquer dès le début que quand on fait une ode à la paresse, en tout cas dans ce cadre-là, c'est pas une ode à la glande, mais bien une ode au non-travail, c'est-à-dire au fait de vivre. Et évidemment, ça passe par le fait de moins travailler, de moins être pressurisé par la question du temps de travail. Mais comme je l'ai dit et comme vous l'avez bien résumé, ça ne veut pas dire ne rien faire du tout.
Ce sont deux jumeaux qui voient là peut-être une occasion de plus ranger leur chambre et très vite le père reprend les choses en main. Votre roman commence pendant le confinement. Vous avez volontairement situé le roman temporellement. Vous avez volontairement situé temporellement le roman. Il y a deux adverbes dans la même phrase, c'est pas joli, mais comme ça, comme c'est dit et pas écrit, ça passe. C'était important pour vous qu'on parle de 2022 ?
Oui, c'était important que ça soit, puisque c'est un livre évidemment qui est pour une part utopique, hein, puisqu'il s'agit de rêver à un autre monde où justement le travail est moins au centre, mais c'était important, et là encore c'est l'intérêt de la fiction par rapport à l'essai, c'était important pour moi de l'inscrire dans un contexte ultra quotidien pour que le lecteur justement te dise cette utopie, toute incroyable qu'elle ait l'air, elle s'incarne dans un présent qui est vraiment le nôtre en ce moment. Et c'est pour ça que j'ai essayé aussi de faire un livre de poétique fiction qui, par certains côtés, est tout à fait classique, tout à fait traditionnel, c'est-à-dire épouse et code de la poétique fiction, et en l'occurrence d'un récit de campagne électorale de quelqu'un qui part de nulle part et qui petit à petit va essayer de franchir marche par marche tous les obstacles qui se présentent à lui pour pouvoir aller au bout de sa campagne. C'est important de faire un livre crédible, en fait, qui se déroule dans un cadre qui, lui, paraît comme utopique.
Mais parce que vous pensez que la période du confinement, qui est un moment où on a pensé qu'il y aurait peut-être un monde d'après qui serait différent du monde d'avant, il y a Houellebecq qui est venu doucher les espoirs de tout le monde en disant que ce sera le même empire. Vous avez pensé à un moment que le monde d'après pourrait être différent et que ce serait peut-être l'occasion de comprendre que certaines choses n'allaient pas dans la société telle qu'elle était ?
Oui, c'est-à-dire que je pense qu'il y a deux choses différentes dans la question que vous posez. J'ai peut-être pas eu moi non plus la naïveté de penser que le monde allait être résolument différent. En revanche, j'ai eu le sentiment, et je l'ai toujours aujourd'hui, que quelque chose changeait dans les mentalités, que les gens étaient obligés de se poser différemment les questions. Et ça, qu'on le veuille ou non, le fait d'avoir mis à l'arrêt tout un pays pendant 2 mois en 2020, puis de nouveau par petites strates successives fin 2020, puis début 2021, ça a quand même rebattu les cartes de quelque chose. J'en veux pour preuve le fait que dans les 40 dernières années, tout le monde poussait des cris d'orfraie avec la question de la dette, et en l'espace de quelques mois, on a fait exploser cette dette en trouvant ça tout à fait normal, alors que ça faisait des années qu'on nous expliquait qu'on n'était pas capable d'augmenter le salaire des fonctionnaires, d'embaucher plus de profs, parce qu'il n'était pas question de creuser la dette. Et en fait, là, on a creusé monstrueusement la dette, parce que tout d'un coup, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose d'important. Donc, on ne peut pas dire que cette crise du Covid, elle a été traversée par ni les responsables politiques, ni les citoyens, de façon totalement anonyme et indolore. Elle a bougé beaucoup de choses, et je pense qu'elle a bougé beaucoup de choses dans le rapport des gens à leur travail et à leur temps. Aussi un sentiment d'angoisse, bien sûr, pendant le premier confinement. Les gens s'interrogeaient sur leur propre santé, est-ce que tout le monde allait mourir dans d'atroces souffrances. Et ça, quand même, là encore, obligé les gens à se poser des questions. Il me semble quand même que quand on analysera avec 10, 15, 20 ans de recul, on verra que cette année 2020 est quand même une année de césure, une année de bascule. Maintenant, évidemment, là, on est en temps réel, c'est difficile d'en tirer des conclusions, mais j'ai du mal à penser qu'il n'y aura pas une variation. Et c'est vrai que moi, j'ai joué sur cette variation mentale, on va dire, pour bâtir cet édifice.
Parmi les nombreuses références que vous citez, qui sont autant de jalons dans l'histoire de la pensée du temps, vous citez l'an 01 de GB, et j'aurais voulu savoir de quoi il s'agissait.
Ah, vous ne connaissez pas l'an 01 ? Alors ça, c'est quelque chose dont vous devez absolument vous saisir. C'est une bande dessinée et un film qui date du début des années 70. GB, c'est un des fondateurs de Charlie, mais le vieux Charlie, le Charlie mensuel. Et son idée, c'était de faire de la bande dessinée poétique, politique, mais aussi poétique. Justement, c'est la force et l'incroyable intérêt de cette bande dessinée qui s'appelle L'An 01, qui a été réédité, hein, que vous pouvez trouver aux éditions de l'association. L'idée, c'était la phrase, si vous voulez, de base de L'An 1, c'est « on arrête tout, on réfléchit et c'est pas triste ». C'est un très bon résumé de ce que propose L'An 1. C'est en gros, donc on est au début des années 70, on va arrêter de faire tourner la machine productiviste, on va remettre tout en question, y compris justement cette obligation qu'on a de travailler. Et c'est une bande dessinée qui a été très importante, qui est un petit peu oubliée de nos jours. Et c'est vrai qu'en fait, c'est un point de départ pour ce livre, puisque avant que ce soit un roman, c'était un projet justement de bande dessinée qu'on a développé à deux avec Alessandra Caretti. avec cette idée de se dire, en fait, on pourrait faire un peu un l'an 01, mais l'an 20, quoi, en fait, une cinquantaine d'années plus tard, qu'est-ce que c'est aujourd'hui que d'imaginer un monde contre le travail. Et puis on s'est rendu compte justement qu'une bande dessinée, c'était difficile. Alors vous me disiez, pourquoi pas faire un essai? Le roman est un bon point intermédiaire entre l'essai d'un côté et la bande dessinée qui, elle, pour le coup, est trop laisse assez, trop peu d'espace au développement intellectuel et on va dire programmatique. Et c'est vrai que, si vous voulez, l'an 1, c'est une très bonne bande dessinée, mais qui reste un tout petit peu elliptique sur la question technique de qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'on aura arrêté vraiment la société. Là, j'ai voulu, avec le personnage d'Émilien Long, être beaucoup plus précis sur l'application réelle d'un programme où la semaine de travail passe à 15 heures, où on pratique la décroissance dans beaucoup de champs, et notamment aussi dans le champ agricole, qu'on arrête d'être dans la surproduction de nourriture, de biens, de services, qu'on se ressente sur les choses plus essentielles, qui était l'idée de GB déjà il y a 50 ans, et d'ailleurs de plein d'autres projets décroissants des années 70, qu'on a eu tendance à oublier parce que les années 80 et 90 ont voulu célébrer à tout craint le fait qu'il fallait se faire du fric et réussir professionnellement, en oubliant qu'au début de la société de consommation, on va dire dans les années 60-70, des gens étaient contre en fait la société de consommation.
Oui, c'est l'héritage notamment du Club de Rome. Dans le livre, vous expliquez, Émilien Long explique que la hausse de la productivité a été absorbée par un surplus surplus de consommation. C'est-à-dire qu'on pourrait aujourd'hui travailler seulement quelques heures, mais la productivité gagnée, on a choisi de la dépenser en accumulation de biens et de services. Et j'ai l'impression que ce qui choque l'écrivain que vous êtes, et le personnage en tout cas, c'est que ce débat-là, on ne le pose jamais dans ces termes-là.
Oui, c'est, vous avez tout à fait raison. Émilien Long cite un texte de Keynes, l'économiste Keynes qu'on connaît bien, qui est quelqu'un qu'on voit comme quelqu'un d'assez classique, qui a théorisé l'idée que l'offre, la logique de l'offre et permettait de relancer une économie, donc ce qu'on appelle le keynésianisme, c'est-à-dire le fait d'augmenter les salaires en gros pour que l'économie remarche, ce qu'a fait Roosevelt en gros dans les années 30, ou ce qu'on a fait avec le plan Marshall après 45 en Europe. Mais en fait, ce même Keynes a écrit un texte qui est moins connu, qui date de 1930, dans lequel il prévoit qu'un siècle dans un siècle, c'est-à-dire en 2030, c'est-à-dire quasiment aujourd'hui, il y aura eu beaucoup plus de... les pays seront beaucoup plus riches et donc on aura besoin de beaucoup moins travailler. Et en effet, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il avait raison. Les pays sont en effet beaucoup plus riches, pas tous évidemment, mais en relatif, oui, si, la plupart des pays ont gagné énormément en richesse. Mais en revanche, on n'a jamais mis comme variable possible d'ajustement le fait de moins travailler pour consacrer plus de temps à sa vie propre. On l'a mis un tout petit peu en France en 1998 avec le dernier changement, on va dire, sur la durée du temps de travail, puisque c'est la fameuse loi sur les 35 heures, et toute une partie du corps économique et politique a crié aux orfraies en pensant que diminuer le temps de travail à 35 heures, c'était cauchemardesque. En fait, c'est pas du tout cauchemardesque. Ce qui est cauchemardesque, c'est de travailler tous les jours 7 heures dans un boulot où on se rend bien compte qu'en fait, avec les ordinateurs, on va beaucoup plus vite, on produit beaucoup plus d'idées, d'objets, de projets, en fait, qu'il y a 60 ou 80 ans. Mais malgré tout, on considère qu'il faut rester enfermé dans son bureau, continuer à produire, sans vraiment savoir qu'est-ce qu'on produit, pourquoi on produit, et est-ce qu'il y a vraiment des gens qui ont besoin de tout ce qu'on produit.
Votre personnage est professeur et prix Nobel d'économie, il vit à Marseille. Est-ce que l'histoire que vous racontez, c'est l'opposition entre Paris la laborieuse et Marseille qu'il serait moins ? Je suis navré pour les Marseillais qui travaillent.
Non, par ailleurs, moi je suis Marseillais, donc j'ai pas de gêne à dire que Marseille est une ville qui, à mes yeux, a beaucoup, beaucoup plus de recul par rapport à la productivité féroce qu'il peut y avoir à Paris, où on sent que tout le monde a tout le temps besoin et envie de travailler. À Marseille, on a le sens d'autre chose, justement, parce qu'on a le goût d'un ailleurs qui est autre chose que simplement la réussite économique. Mais maintenant, c'est tout à fait par hasard que mon personnage, il se trouve qu'il est né à Marseille, il est parti aux États-Unis, donc il a travaillé dans une très grande université américaine, et donc il a obtenu le prix Nobel d'économie, et puis il a décidé, en voyant ses enfants grandir, de se réinstaller en France, et voilà, il se trouve qu'il se réinstalle dans sa ville d'enfance, puisque en tant que prix Nobel, il peut aller là où il veut, et donc il a la possibilité de choisir son labo, et donc il choisit Marseille, parce que Marseille, c'est quand même la ville la plus sympathique de France où habiter. Pardon pour vous.
Vous écrivez même, j'adore cette phrase, venir pour travailler à Sorbonne, ce serait comme prendre des vacances à la Défense, une faute de goût. C'est vrai, voilà, qu'on n'imagine pas quelqu'un partir en vacances à la Défense.
Voilà, et de la même façon, Sormiou, qui est donc une des calanques les plus charmantes de Marseille, on n'imagine pas quelqu'un venir pour y travailler. C'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Mais évidemment, derrière cette blague, ce cliché de la plage et du non-travail, c'est aussi cette idée justement que les Parisiens, à mes yeux, ont plus de mal à interroger la question de la fin du travail, parce qu'ils sont plongés dans une espèce de frénésie. L'expression, la fameuse expression métro boulot dodo, elle est liée à la capitale, à la région capitale, on va dire, ça n'est pas sans raison. C'est-à-dire qu'en fait, Paris, c'est le Paris et sa région, c'est le poumon économique de la France. C'est aussi le cauchemar, on va dire, du travail justement posté. Et d'ailleurs, pour le coup, si on revient au confinement, on a bien vu qu'il y a beaucoup de Parisiens qui ont eu envie de laisser tomber la ville et laisser tomber leur boulot, parce qu'ils prenaient conscience du fait qu'en fait, ils s'usaient peut-être quelque part à être rivés derrière leur ordinateur. Il y a cette expression des bullshit jobs qui est arrivée dans le débat il y a moins de 10 ans, mais qui s'est très vite imposée. Elle raconte quelque chose. Combien de gens font des bullshit jobs? Combien de gens sont rivés à leur poste de travail pour faire quelque chose qui ne sert à rien? De plus en plus de gens ne l'acceptent plus. Peut-être qu'il y a... 10-15 ans, les gens étaient plus à courber les chines, et que maintenant ils le sont moins, y compris à Paris, et tant mieux pour ces villes qui ont besoin justement de rompre avec ce productivisme effréné.
Adrien Klint, je rappelle que vous êtes l'auteur de Paresse pour tous, paru aux éditions Le Tripode. Je vous remercie de nous avoir donné un quart d'heure pour discuter avec nous de ce roman qui fait un éloge d'une semaine, d'une journée de travail de 3 heures. Merci à vous.
Merci.
Merci, au revoir. C'était La Relève, proposée et préparée par Christophe, réalisée par Colin. Vous retrouvez tout de suite la matinale de 19h à 19h. En attendant, c'est le programme musical de Radio Campus Paris. À très bientôt, bonne soirée.